Panorama Économie.
Bonjour messieurs, dames, et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce magazine rétrospectif de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Les titres: le 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC célébré à Matadi, véritable opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques, tandis que la population a manifesté une certaine crainte de la spéculation des prix de produits de première consommation. Nous nous rendrons également au Katanga où l'on déplore la destruction d'environ 45 hectares de champs depuis quelques mois. Dans le village Muloka, la population victime de cette dévastation accuse l'entreprise minière Mutanda Mining qui aurait déversé les rejets de ses usines de traitement de minerais dans leurs champs. L'actualité oblige, nous dirons aussi un mot sur la cargaison de la viande de volaille impropre à la consommation contre laquelle l'ambassade de la Turquie avait alerté le gouvernement congolais. Restez avec nous si vous voulez suivre le développement de tous ces titres, les titres qui vont seront analysés et commentés par le stratège Al Kitenge qui est notre invité de la semaine. Il est avec nous au studio. Al, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel.
Panorama Économique, le dossier.
Le résumé de la semaine dans ce dossier, d'abord le Congo central et à Matadi, plus précisément, lieu choisi par l'autorité du pays pour commémorer le 55e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté internationale. Les hôtels et autres lieux d'hébergement étaient totalement remplis suite à l'afflux des délégations venues de toutes les provinces. Les marchés, les débits de boissons inondés de monde avec de retombées positives pour les uns et les autres. La population a cependant manifesté la crainte de voir cette fête entraîner une hausse des prix des produits. C'est ce que nous disait lundi Guy Roger Niapala à la veille de la fête de l'indépendance.
Tous les hôtels de Matadi étaient déjà réservés il y a deux jours par l'arrivée des différentes délégations dans cette ville portuaire pour cette fête de l'indépendance. Un propriétaire d'hôtel de la place interrogée a indiqué que 99% des chambres sont déjà occupées. Les chambres réservées aux agents de nuit ont été également sollicitées par les différentes délégations. De son côté, un commerçant des matelas vers le pont maréchal Mobutu affirme avoir vendu tout son stock. Du côté des débits de boissons, ils sont déjà saturés et leurs tenanciers disent avoir pris toutes les dispositions pour accueillir les clients demain, date de l'indépendance. Un vendeur de cartes prépayées du quartier Kitanda, pour sa part, parle d'une circulation intense de l'argent dans la ville de Matadi. Sachez également qu'il n'y a pas d'entrée ni de sortie de camions poids lourds au port international de Matadi, mais les activités se déroulent normalement sur place. La population, de son côté, dit craindre une hausse de prix de biens de consommation suite à l'arrivée massive des gens dans la ville de Matadi. Kiroje Nyampala, Matadi.
Au Katanga, les autorités coutumières parlent d'environ 45 hectares de champs détruits depuis quelques mois dans le village Muloka. Ce site est situé dans la réserve de Kanto à Kolwezi. La population affectée par cette dévastation de champs accuse l'entreprise minière Mutanda Mining de déverser les rejets de ses usines de traitement des minerais dans leurs champs. L'information est confirmée par la société civile de Kolwezi et le service de l'environnement. Denis Maéo Moissi nous en dit plus.
À notre arrivée au village Muloka, nous avons été surpris de voir une grande étendue de champs complètement détruite. Toute la flore a pris la couleur noire et le sol est couvert d'une substance blanche. Même l'eau de la rivière est contaminée. Le chef du village Muloka exige l'indemnisation de la part de l'entreprise Mutanda Mining. Qu'on dédommage les paysans, tous les produits des champs sont détruits, que la société me paye aussi en tant que chef de terre. Le sol est irrécupérable. En plus, très récemment, on a vu une citerne d'acide de l'entreprise Mutanda se renverser. Ils ont récupéré l'acide et jeté au-dessus de la colline. L'acide peut couler jusqu'à la rivière et les gens qui consomment cette eau risquent la mort. Au service de l'environnement de Kolwezi, l'on se déclare préoccupé car la base Kando constitue une réserve des hippopotames. Jusque-là, pas de réponse officielle des responsables de l'entreprise Mutanda Mining incriminée. Toutefois, il y a eu des correspondances d'environ 33 pages entre la mairie de Kolwezi, la société civile, les chefs coutumiers des villages. Ici, l'entreprise reconnaît les dégâts causés par ses usines sur les cultures et a promis d'indemniser les victimes. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Merci beaucoup, Denise Mayo, et très bon week-end à Lubumbashi. Voilà, c'est le moment de retrouver maintenant notre invité qui est avec nous dans ce studio. Mais pour faire complet dans ce dossier, Al, vous avez suivi le 55e anniversaire de la RDC fêté à Matadi. Et c'était une bonne opportunité pour les opérateurs économiques avec l'afflux de toute cette population, de toute cette délégation au Katanga, les autorités coutumières qui se plaignent de la dévastation de 45 hectares de champs. Et le troisième dossier que je voulais analyser avec vous dans cette émission, c'est un sujet d'actualité, c'est cette situation de poulets en provenance de la Turquie pour la RDC et toute la polémique qu'il y a autour de cela. La marchandise n'était pas destinée seulement à la RDC, mais aussi bien au Congo-Brazzaville, avait fait savoir le jeudi le président du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle. Pour lui, cette marchandise n'est jamais entrée en RDC, la cargaison était stoppée au de Pointe-Noire ou dans le Congo-Brazzaville, et sur terrain, les opérateurs économiques ici à Kinshasa, qui dépendent de l'activité des vivres frais en subissent déjà des connaissances. Vous avez suivi cette actualité comme nous. Essayez de donner votre lecture par rapport à ces trois sujets dans notre premier dossier du jour.
Merci beaucoup, Daniel. Je pense que le premier sujet qui attire notre attention, c'est la célébration de l'indépendance dans un cadre d'itinérance. Il y a un exemple tout près de nous qui est très éloquent, c'est l'exemple du Congo-Brazzaville.
Qui a fait quoi ?
Une année à l'avance, on sait exactement quelle ville va accueillir les célébrations de l'indépendance. Mmh. Des travaux intenses sont réalisés pour que, après l'indépendance, ils vivent une autre économie. Mmh. Pour que la fête de l'indépendance se passe dans des conditions prévues. Ça veut dire les capacités d'accueil, et également tout le commerce qui sera en mesure d'accueillir non seulement l'événement, mais surtout de pérenniser les avantages de cela. Mais chez nous, le drame, c'est que ça s'improvise en dernière minute. Bien entendu, on se retrouve avec une ville complètement débordée et on bloque les activités des camions et on bloque les activités douanières sans se poser la question de savoir quels sont les préjudices que l'on cause aux autres. Je pense que ça pose toute la question de la planification et c'est une matière qui doit nous entrer dans la psychologie de manière tout à fait pérenne. Mais je voudrais vous dire une chose qui se révèle tout à fait claire par rapport à cette itinérance. Ça pose la question de la géo-occupation du territoire national. Vous savez, il a suffi qu'on fasse cette activité à Matadi. Matadi a vécu un autre niveau. Mais c'est ce niveau-là que nous vivons au quotidien à Kinshasa. Tout l'argent se dépense ici, toutes les autorités sont ici. Imaginez un seul instant que l'on délocalise les entités de l'État sur toute l'étendue de la République. La capitale, c'est Kinshasa, bien entendu, et déjà pas la Gombe. Si on peut étendre les activités de la capitale sur toute l'étendue de la capitale, ce serait déjà une chose. Deuxième chose, il y a des grandes administrations qui peuvent être délocalisées dans les provinces. Ça créera un nouveau centre ou des nouveaux centres d'impulsion et d'intérêt, et ça établira une certaine économie nationale. La plus grande faiblesse aujourd'hui au Congo, c'est la faiblesse de l'économie nationale. C'est pour ça que nous sommes une économie totalement extravertie. Et je pense simplement que cette occasion de l'indépendance et les implications que l'on a eues sur la ville de Matadi peuvent attirer l'attention
des autorités
pour commencer
à faire déjà le choix de la prochaine province.
Et l'annoncer et investir de sorte que, après la célébration de l'indépendance dans cette nouvelle ville, il reste quelque chose.
Que la ville sente que vraiment l'indépendance est passée par ici
et qu'il y a des effets d'entraînement positifs. Deuxième sujet, c'est la question de Kolwezi. Je suis né à Kolwezi et quand on en parle, je me sens un peu triste. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a un seul député, un seul sénateur intelligent, capable de prendre ce dossier à bras le corps et le présenter?
45 hectares.
Ce n'est absolument rien du tout. Lorsque vous ne regardez que 45 hectares, la situation est beaucoup plus grave. La situation que l'on voit aujourd'hui avec Mutanda Mining, c'est exactement la même avec tous les autres opérateurs miniers qui sont sur le territoire, qui sont dans la province, et qui sont d'ailleurs sur tous les territoires nationaux. Les conditions d'exploitation sont inacceptables. Aucun cahier des charges du plan national d'entreprise d'atténuation des effets sur l'environnement n'est suivi. Et ça, c'est la seule partie visible et on en parle parce que la radio Capi éventuellement a envoyé des émissaires. Mais je crois simplement que c'est une situation grave. Les pollutions ont un impact majeur sur non seulement la flore et la faune, mais également sur les êtres humains. Et je crois que quand on crée la richesse, on doit la créer de manière responsable.
Justement.
Et la créer de manière responsable, c'est s'assurer que les impacts sur non seulement l'environnement, mais également les êtres humains sont limités.
Ceci me rappelle une session que vous avez organisée à Kinshasa sur la responsabilité sociétale des entreprises.
C'est exact. C'est une notion fondamentale que certaines personnes prennent comme cosmétique. C'est irresponsable. Vous savez, on ne peut pas continuer à créer de la richesse en distribuant la mort. Et ça, c'est le travail des hommes politiques. Et c'est là que moi, j'aurais voulu voir 1, 2, 3, 4 députés et sénateurs de cette partie de la République se mettre debout et de parler à très haute voix. Deuxième chose que j'aimerais bien voir, ce n'est pas nécessairement des organisations de la société civile cosmétiques. Je veux des gens sérieux qui se mettent debout et qui font comprendre à ces exploitants complètement irrationnels et irresponsables qu'ils doivent absolument non seulement réparer ce qu'ils ont fait, mais poser des actes pour la prévention. Vous savez, il y a quelques jours, une des entreprises pétrolières du monde payait non seulement 54 milliards de dollars de dommages à intérêts étalés sur 10 ans pour montrer simplement que les choses sont prises au sérieux. Là-dessus, je pense qu'il faut simplement porter plainte. Il faut que quelqu'un ou une organisation
les
porte plainte.
Les sont mises en danger.
Et oui, bien sûr, non seulement pour ce cas particulier, mais également, c'est une opportunité pour faire un bilan général de la qualité des exploitations dans les autres exploitations minières.
Et les poulets ? Les dossiers poulets, vous avez suivi ça et déjà on parle d'un côté de l'intox, de l'autre. En tout cas, c'est un dossier assez complexe. Vous avez suivi l'actualité, l'ambassade de la Turquie qui lance une alerte au gouvernement congolais. Il y a une cargaison qui vient d'une zone qui a été affectée par la grippe aviaire et dont le volaille est en route pour le Congo.
Daniel, cette question du poulet et de l'information publique qui passe pour de l'intoxication, qui passe pour de la rumeur, pose la question de la communication et de la redevabilité dans ce pays. Dans ce pays, lorsque la fin de l'année fiscale arrive, des documents du secteur et du domaine public restent cachés. De la même manière, l'information reste cachée. C'est honteux que l'on ne soit pas en mesure de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qui dit vrai, qui dit faux. C'est une information du domaine public. En fait, on a un certain nombre d'intervenants, dont le GFREM, qui doivent être en mesure de nous dire est-ce que, oui ou non, ces cargaisons sont arrivées en République démocratique du Congo. Ils ont ce qu'ils appellent le ferry.
Oui, justement.
C'est un dispositif qui nous permet de savoir tous les bateaux qui viennent en direction de la République démocratique du Congo se situent à quel niveau à chaque instant. Donc on ne devrait même pas être en mesure d'en discuter. C'est poser la question à l'OGFREM. L'OGFREM devrait être en mesure de nous dire de quoi il s'agit. Deuxième chose, si l'OCC est passé au devant pour essayer de se défendre, c'est simplement parce que finalement, ils sont censés a posteriori s'assurer du fait que oui ou non, cette cargaison est arrivée chez nous, est-ce qu'elle est entrer sur le territoire. Bien entendu, lorsque on entend 5 informations différentes, on ne peut pas donner de la crédibilité à une seule. En fait, nous devrions avoir une seule voix intelligible capable de nous dire qu'est-ce qu'il en est exactement. Mais cette situation est la situation générale de la République démocratique du Congo. On n'a jamais l'information. On est toujours dans l'intoxication, on est toujours dans la rumeur. Et au niveau de l'État, c'est très dangereux.
Et
ça rappelle toute cette question d'un certain nombre de dignitaires qui seraient en justice avec l'État congolais à l'initiative du chef de l'État. Finalement, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et la rumeur dépasse l'information. Ce n'est pas acceptable. La redevabilité en matière de démocratie exige que l'on dise aux citoyens ce qu'il en est.
Et vous estimez que dans ce cas d'espèce, quelle voie pourrait fixer les Congolais sur la situation, dire la vérité aux Congolais? Ce serait quelle voie?
Nous avons un ministre en charge de la communication et donc qui parle au nom du gouvernement. Pour ce genre de cas très particulier qui n'a absolument rien à voir avec la politique, il devrait se mettre debout et donner la version officielle de l'État et donner la source d'information qui peut être vérifiée. Et à mon avis, le point de vérification le plus important, c'est l'OGFREM.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine en plus bref, l'Association nationale des institutions de microfinance de la RDC a organisé ce jeudi un atelier sur la professionnalisation des institutions de microfinancière des institutions de microfinance membres, considérant le taux de bancarisation de la RDC qui se situe encore à ce jour à moins d'1%. L'Association des institutions de microfinance de la RDC s'assigne comme objectif de multiplier par 5 sa participation au relèvement du niveau de ses taux de bancarisation et de contribuer à la lutte contre la pauvreté. En Ituri, en province orientale, le trafic est redevenu intense sur l'axe Bounia-Komanda, long de 75 km sur la nationale numéro 27. C'est après sa réhabilitation il y a cela quelques jours par Titan, une entreprise privée. Selon des sources concordantes, la dernière réhabilitation mécanisée remonte à 2008 et depuis, seulement quelques travaux d'entretien d'urgence s'effectuait sur ce tronçon. À l'ouverture complète de cet axe, plusieurs véhicules transportant diverses marchandises en provenance des pays partageant la frontière avec la partie est de la RDC empruntent cette route pour desservir les villes de Bounia, Beni, Butembo et Kisangani. Donc, nous allons en province du Katanga où 4 locomotives neuves sont arrivées le week-end dernier dans les installations de la SNCC à Lubumbashi. Ces locomotives constituent le premier lot des 38 attendus. 18 ont été commandées par la Banque mondiale et 20 par le gouvernement de la RDC. 12 se trouvent déjà sur le territoire congolais à destination de Lubumbashi. Pour la délégation syndicale, l'arrivée de ces nouvelles locomotives augmente bel et bien les perspectives pour la relance de cette compagnie de l'État. Et pour finir dans cette émission, je pense la dernière partie que nous allons aborder avec notre invité Alky Tengue, c'est la loi libéralisant le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. La structure que vous dirigez, Synergie Group, veut sensibiliser, veut parler de cette loi. Nous rappelons que c'est une loi qui était votée au Parlement depuis l'année passée, promulguée par le chef de l'État. Un délai d'une année, de juin 2014 à juin 2015, était accordé le temps de réunir les préalables à la mise en œuvre de cette mise en application de cette loi, et elle devrait entrer en application au mois de juin 2015. Aujourd'hui, le mois de juin est terminé. Qu'en est-il effectivement aujourd'hui, cette loi libéralisant le secteur de l'électricité en RDC?
Daniel, votre inquiétude est tout à fait réelle et c'est pour ça que nous avons pris le bâton de Bélin pour essayer de sensibiliser les Congolais. Lorsque vous regardez un peuple, vous regardez son niveau de croissance en termes de qualité de vie, lorsque vous regardez son développement, il y a un phénomène important qui va avec, c'est sa capacité à consommer de l'énergie sous toutes les formes. Et Dieu nous a bénis, nous sommes un peuple au cœur de l'Afrique et nous avons un potentiel qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons 106 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique sur notre territoire, dont 44 000 sur un seul site. Pour vous donner une illustration, un seul site est comparable à celui que nous avons, il s'appelle les Trois Gorges en Chine. Et là, tout a été bâti, ça produit déjà. Mais déjà, ce qu'on a en Chine, c'est la moitié de ce que nous avons sur Inga.
Qui n'est pas encore exploité.
Et vous vous rendez bien compte que eux, ils sont 1,350 milliard de personnes, nous ne sommes que 72 millions de personnes. Une manière de dire, nous avons là un potentiel incroyable. Mais il n'y a pas que là, nous en avons bien d'autres dans le pays. Je vais vous donner un deuxième chiffre. Si nous produisons de l'électricité de manière efficace sur tous ces sites, je parle simplement de l'hydroélectricité, nous avons un réseau interconnecté national et international. Nous sommes capables, rien qu'avec l'énergie électrique, de générer 75 milliards de dollars par année. Sans compter les effets induits. Je parle de la vente d'électricité avec une freine d'à peu près 30 à 40%. Rendez-vous bien compte sur quoi nous sommes assis.
Ça, de la manne.
C'est une manne incroyable. Mais chaque jour qui passe, c'est un peu comme si nous jetions de l'eau à la mer sans que nous nous rendions compte que nous jetons en fait en réalité de l'argent. Ça demande un grand plan national énergie propre. Ça nous qualifie sur la place internationale parce que les énergies sales, polluantes, sont en train d'être remplacées par des énergies propres. Nous avons donc une carte géostratégique extrêmement importante
à jouer. La République s'est dotée d'une réglementation, d'une loi, qui a été promulguée l'année dernière, qui doit être obligatoire et opposable à tous au 1er juin 2015.
Ouais.
Il reste une seule chose qui doit être mise en place, c'est l'autorité de régulation, qui en fait est l'arbitre général entre les consommateurs, les importateurs, les producteurs, les transporteurs, pour que cette autorité soit en mesure de réguler en fait la manière dont les affaires sont conduites dans le secteur.
Mmh.
C'est la seule chose qui traîne. Pourquoi ça traîne, personne ne comprend.
Qui devrait faire ce travail-là? Qui devrait mettre en place cette autorité?
C'est le gouvernement. Parce que simplement, le chef de l'État a déjà promulgué la loi. La mise en application relève du gouvernement. Et donc, aussi vite que cette autorité de régulation sera mise en place, il sera possible que nous ayons des investisseurs privés pour venir exploiter les différentes opportunités qui étaient jadis réservées à la SNEL. Donc, on a des besoins de compétitivité, et pour ça, on a besoin de grands acteurs.
Cela veut dire que, avec cette loi, le monopole que détenait la SNEL n'existe plus.
Il est complètement stoppé, arrêté, net, et c'est une très bonne chose. Ça va ressembler à ce que nous avons connu dans les systèmes de télécommunications. À l'époque, nous avions l'OCPT qui était en faillite,
seul, ouais.
Et le pays était en arrêt. Pour passer un coup de fil à l'international, on devait aller à Brazzaville, et pour recevoir un appel international, c'était...
Et beaucoup de gymnastique.
Dès que nous avons eu la libéralisation, bien entendu, les grands opérateurs sont arrivés. Et aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, on peut téléphoner.
Oui,
c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, du point de vue économique, c'est positif. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez l'assiette de l'État, vous vous rendez bien compte que les télécommunications sont le deuxième secteur en termes de contribution par rapport aux revenus de l'État. Ce qui est arrivé dans les télécommunications va arriver dans le secteur de l'électricité. Parce qu'il y a plusieurs métiers là-dedans. Il y a la production,
il y a
l'importation, il y a le transport, il y a la distribution. Et c'est plusieurs métiers qui, jadis, étaient sous la coupole de la SNEL qui en devenait quasiment incompétente. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la SNEL va se retrouver dans des conditions...
Ça peut s'ouvrir le marché aux équipementiers.
Mais absolu, lorsque vous regardez les trois gorges, c'est Alstom, c'est français, mais toute l'électronique est allemande. Ça veut dire que même les Chinois qui ont une technologie de loin avancée par rapport à la République démocratique du Congo... a dû faire recours aux intervenants internationaux. Juste pour vous donner une illustration, pour construire les trois gorges, le ciment chinois n'était pas acceptable au standard. Au regard des exigences de stabilité et de qualité, ils ont dû importer du ciment européen. Ça veut dire qu'en fait, nous n'allons pas avoir des complexes pour ça. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité ni technique, ni financière de pouvoir mener à bon ce genre de projet. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas fait ça sur les 30 dernières années. Donc il est important que nous nous ouvrions sous notre leadership aux étrangers qui ont non seulement les capacités financières, mais également la technicité nécessaire pour nous accompagner dans la production. Les bijoux de famille que l'on gardait, il faut les mettre à production pour que les peuples puissent être en mesure d'en jouir. Nous ne pouvons pas être un pays qui a des ressources minières extrêmement importantes, qui ne peut pas les exploiter parce que nous n'avons pas d'énergie, alors que nous avons le potentiel hydroélectrique par tête d'habitant le plus élevé du monde. En fait, à un moment donné, il faut être en mesure de réfléchir.
En attendant, peut-être que l'autorité de régulation soit mise en place. Que se vous proposerez? Vous pensez comment ça se passerait? Un opérateur qui vient, il met son argent, il commence à produire. Ça se passerait comment?
Il commence à produire et il a un réseau de distribution en propre ou entière et il facture le client au prix coûtant. Ça veut dire qu'en fait, cette affaire où l'État déterminait le prix est complètement terminée. Les prix vont être représentatif de la réalité du coût de production.
Alors
et
là,
du coût
il sera question de la vérité de prix.
C'est exact. Parce que, à vouloir faire des choses au moins cher, on finit par ne pas donner le service et en contrepartie, les gens développent des solutions alternatives qui coûtent trois fois plus cher, puisque je voudrais vous dire que cuisiner avec le Makala coûte trois fois plus cher que cuisiner avec l'électricité produite et fournie par la SNEL. Juste pour vous indiquer. Ça veut dire qu'en fait, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas accès aux équipements électriques, dépensent plus d'argent que les riches qui, dans leur maison, ont de l'énergie électrique. Donc, il y a un besoin social de pouvoir pousser l'opportunité à tout le monde.
Mais à ma connaissance...
À côté de ça,
oui.
J'aimerais vous dire,
oui.
Il ne faut pas regarder l'électricité simplement comme une source de réchauffement pour réchauffer la nourriture ou pour éclairer les maisons.
Non, non.
C'est déjà une source d'industrialisation. Il y a énormément d'opportunités qui sont latentes, qui ne peuvent pas avancer tant que nous n'avons pas de l'électricité. Et il est donc important que nous inscrivions cela à l'agenda, non seulement national, mais également de la géostratégie. Parce que je veux vous dire une chose, si on a une vingtaine de pays africains et peut-être d'Europe qui dépendent de nous du point de vue de l'énergie, personne n'osera venir tirer un canon ici.
Mais vous, je veux revenir à ce que vous avez dit, je le comprends parfaitement bien, parce que moi, quand j'allume mon groupe électrogène à la maison, la quantité de l'essence que j'utilise est de loin supérieure à la facture que la SNEL me propose à la fin du mois.
C'est exact. Ça veut dire en fait...
En une journée, j'ai dépensé 3 fois plus que je paye à la SNEL. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le commun des mamans congolaises qui préfèrent encore aller vers les Makala se rendent compte de ce que vous avez dit?
Il faut le leur dire. Vous savez, les gens ne consomment que ce qu'on leur présente. C'est là toute la nouvelle citoyenneté. C'est de penser aux autres aussi, c'est d'aller leur dire, écoutez, il y a des alternatives plus responsables et qui vous mettent en vie. Je donne des illustrations simples. Les bougies ont tué beaucoup de personnes ici par des incendies. Nous avons encore connu un incendie hier pour simplement mauvaise connexion électrique dans un des bâtiments de Natra non loin d'ici. Et ce genre de choses démontre clairement que nous avons un besoin, non seulement individuel, mais également un besoin collectif de progrès. Mais progresser dans l'intelligence collective positive. Et cette question d'électricité est une question fondamentale qui mérite que nous y accordions le plus grand, la plus grande attention possible. Je pense que le ministère de l'énergie devrait être élevé à la vice-primature ou au ministère d'État et lui donner les moyens nécessaires pour qu'il traverse le monde entier pour aller contacter les intervenants nécessaires et créer et générer ici énormément d'énergie et être en mesure de le rendre disponible pour la consommation locale et internationale. C'est une donnée extrêmement importante de la géopolitique que nous pouvons être en mesure de maîtriser, et en impliquant les gens chez nous dans la production de l'énergie et donc d'une solution chez eux, ils vont devoir s'occuper de la sécurité chez nous. Et donc ça pourra être une bonne manière de stopper net toutes les turbulences que nous avons sur le territoire.
Et vous pensez, nous avons un potentiel dont vous avez parlé, c'est logé à Inga. Et vous pensez, en ouvrant le secteur, des privés peuvent venir solliciter à travailler sur le site de Inga et produire et commercialiser.
Non seulement Inga, je vous ai dit que nous avons à peu près 106 000 MW de potentiel hydroélectrique sur toute l'étendue de la République.
J'ai pris l'exemple de Inga, oui.
Et si nous prenons Inga, c'est un méga projet.
On peut le laisser à la SNEL alors, et les autres
La SNEL n'a pas les compétences ni les capacités de pouvoir gérer ce genre de projet. La République elle-même a des sérieuses difficultés à pouvoir piloter ce projet, parce que, je vous donne un chiffre, rien que pour le grand Inga, il faut aux alentours de 200 à 250 milliards de dollars pour être en mesure de mettre en place les équipements et faire le réseau. C'est de l'argent que nous n'avons pas. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas rêver. Soit on va garder le potentiel et nous allons avoir zéro et nos enfants vont continuer à mourir de faim et de maladie. Soit nous disons, nous partageons avec les tiers, parce que 100% des zéros, c'est zéro. Et en ce moment-là, nous savons de quelle manière, à notre initiative, nous pouvons piloter ce projet. Nous sommes en train de nous battre pour Inga 3. Et quand vous regardez le leadership de Inga 3, c'est la Banque mondiale.
C'est la Banque mondiale, justement.
Et c'est la BAD. Pourquoi? Parce que, il faut être sincère, nous n'avons pas la capacité, ni technique, ni financière, de piloter ce genre de projet. Et il faut en faire un
deuxième, un troisième. Et lorsque c'est quelqu'un d'autre qui fait à ta place, c'est lui qui a la même mise.
Si vous lui laissez le leadership, c'est pour ça que je dis, nous devons garder le leadership. La conception et la gestion de projet est à nous, et nous faisons une invitation aux différents intervenants. Si nous ne le faisons pas ainsi, ils vont prendre des initiatives plus pour résoudre leurs problèmes, et en ce moment-là, ils nous prendront de pied levé. En ce moment-là, nous n'allons pas avoir le moindre contrôle. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Ces questions de développement ne sont pas des questions politiques, c'est des questions de société. Et donc, il faut en parler en toute aisance et en toute transparence.
Vous êtes le patron de Synergy Group, c'est une maison de consulting. Quelles sont les démarches, quels sont les lobbies que vous faites par rapport à cette loi qui libéralise le secteur de l'électricité? Est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens qui sont intéressés par ce secteur et qui sont venus avoir de sages conseils auprès de votre maison?
Dans un premier temps, nous avons d'abord le privilège d'avoir été chargé par le ministère de l'énergie et de l'hydraulique pour assurer la communication autour de la loi. Nous avons conçu tout le plan qui est en train d'être déroulé. C'est un privilège et nous voulons remercier le ministère pour ça. Mais il y a au-delà de ça, le plan stratégique, le plan de développement du secteur, c'est une autre étape, elle va au-delà de la loi. Et là-dessus, le ministre doit se mettre debout pour être en mesure d'indiquer dans quel sens nous voulons aller, pour être en mesure d'être une destination d'attractivité optimale pour les investisseurs, les équipementiers et les exploitants. Mais vous savez, c'est une opportunité pour que même la SNEL se renouvelle et qu'elle s'agrandisse. Je donne une illustration simple. Dans cette ville de Kinshasa, plus de 80% des maisons n'ont même pas de compteur. on les facture
au forfait. Je n'ai pas chez moi.
Bien sûr, voilà. Et on les facture au forfait.
Au forfait, oui.
De par la loi, c'est illégal. Alors, vous allez vous retrouver avec une SNEL, enfin, la société SNEL, qui va vouloir acheter des compteurs à placer. Vous savez que dans tous les pays du monde, les compteurs appartiennent à des sociétés d'infrastructures qui, en fait, livrent ces compteurs et les détiennent en propre. En fait, la SNEL en est simplement utilisatrice.
Oui.
Et ça, c'est des mécaniques financières et d'affaires qui sont simples à mettre en place. Et ce qui tue la République démocratique du Congo, c'est ce besoin de propriété. Mais vous savez, dans la nouvelle économie, la notion de propriété est en train de disparaître. C'est la notion d'utilisateur. Les logiciels viennent avec ce qu'on appelle le software as a service. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le hardware as a service. Ça veut dire, un équipement vous est donné en utilisation, vous ne payez que pour l'utilisation. À quoi ça sert d'avoir un ordinateur?
Alors que vous ne saviez pas peut-être tous les couteaux.
Non seulement ça, les ordinateurs, au bout d'une année, il faut le changer. À quoi ça sert de l'acheter? Les gens vous disent, on vous le met à disposition, vous l'utilisez.
Utilisez seulement.
Simplement. Et des gouvernements, des organisations importantes sont passées sous ce mode. Et je crois que nous devons être en mesure d'évoluer avec la mentalité et être en mesure de se moderniser dans la manière d'approcher les choses et de donner des solutions.
Voilà, et nous allons maintenant atterrir et nous atterrissons sur ce dossier puisque vous avez été chargé de communiquer autour de cette loi libéralisant le secteur de l'électricité en RDC. Une petite synthèse à l'endroit de tous ces opérateurs économiques qui seraient tentés d'aller dans une aventure dans le secteur, investir, mettre leur argent dans le secteur de l'électricité en RDC. C'est prometteur?
C'est largement prometteur pour deux bonnes raisons. Il y a un marché intérieur sûr, parce que le taux d'électrification de la République est extrêmement faible. La demande est donc importante. Les mêmes difficultés que l'on a connues avec les télécoms, on peut les avoir et on peut donner des solutions dans le secteur de l'électricité. Deuxième chose, il y a un marché international. La Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud, au nord jusqu'au Maroc, il y a une véritable demande. Et donc, les gens qui investiraient ici, pour peu qu'ils le feront intelligemment, ils vont gagner de l'argent.
Merci beaucoup, Alky Tengui, d'avoir répondu à cette invitation de Panorama Économique. Merci pour ces analyses et merci pour cette information que vous nous donnez. La loi libéralisant le secteur de l'électricité est entrée en application, opposable à tous, depuis le 1er juin 2015.
C'est exact.
Merci à vous, chers auditeurs, pour ce moment passé ensemble. Retrouvez Panorama Économique sur www.radioocapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.